Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Oui, vous le savez, Good Luck Paris, c'est tous les jours de la semaine. Je vous retrouve entre 13h et 15h en direct et en solo. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, Emmanuel Shopping. Nous allons dans les concept stores, ces fameux multimarques qui ont essaimé ces 5 dernières années dans la capitale et qui nous ont permis de découvrir tout un tas de jeunes marques de mode parisiennes, françaises et même internationales. Nous commencerons notre balade dans le 10e arrondissement chez Centre Commercial avec Sébastien Kopp, puis chez le petit nouveau V Barber & Shop avec Nissad Golampère, puis nous passerons par les Halles, la nouvelle canopée, c'est aussi la nouvelle adresse du concept store L'Exception, nous en parlerons avec Régis Penel. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et traditionnellement, nos nouveautés de la semaine, Emmanuel, commence avec la table de la semaine. Vous nous faites voyager un peu aujourd'hui.
Oui, mais alors au départ de l'action, si je vous dis un restaurant qui s'appelle Chez Alfred, vous vous dites quelle cuisine?
De la bonne cuisine française,
French. Pas du tout. Nous sommes exactement au 31 bis rue Amelot, dans le 11e, à l'enseigne de Chez Alfred. Mais il y a une baseline, un sous-titre qui s'appelle Lao Cuisine. En fait, nous sommes dans un restaurant laotien, dédié à la cuisine laotienne, comme son nom ne l'indique pas vraiment.
C'est Alfred le laotien.
Et c'est d'ailleurs intéressant parce que lorsqu'on va pénétrer le restaurant, pousser la porte, on va se retrouver dans une délicieuse confrontation entre un décor, un intérieur qui est vraiment un intérieur parisien contemporain. C'est plutôt réussi avec des murs grattés, des pierres à nu. Toutes les tables sont accompagnées, j'allais dire, presque de divans, de fauteuils. On est vraiment comme si on était chez soi, mais un beau chez soi. En revanche, dans l'assiette, là, on a une vraie cuisine laotienne. Pas une cuisine, j'allais dire Chinatown, hein. On est vraiment dans la cuisine laotienne. On rappelle la cuisine laotienne, qui est une cuisine qui ressemble un peu à la cuisine thaïlandaise, donc très portée sur l'aromatique, sur l'épice. Mais ici, à la fois très sincère, très très réaliste, avec les vraies recettes qui font le Laos, mais légèrement travaillé à la sauce citadine. On pourrait presque parler de cuisine eurasienne. C'est-à-dire qu'on va prendre deux plats cultes. La première plat culte laotien, c'est certainement la soupe Tom Yum. La soupe Tom Yum, c'est une soupe qui généralement est au poulet, mais avec du galanga, du curry, de la citronnelle. Et là, vous allez pouvoir moduler l'épice. C'est en cela où vous dites plus ou moins épicé, et le cuisinier va varier l'échelle de Scoville. Vous savez, cette fameuse échelle qui dose le piment. Autre plat culte, là faut y aller, c'est le mokpa. Le mokpa, c'est un petit plat paysage. C'est un poisson cuit, j'allais dire cuit quasiment en vapeur, pas bouilli, mais vraiment, oui, presque bouilli. C'est vraiment le délice de la vapeur. Il est travaillé dans une feuille de bananier, là encore avec du curry rouge, de la cardamome, beaucoup d'épices. Généralement, la plupart du temps, lorsque quelques restaurants asiatiques à Paris réalisent ce plat-là, c'est du brouet. C'est comme un coton dans la bouche. Ici, très très délicat. Très très belle adresse, vraiment, entre, oui, j'allais dire, un dialogue parisien et laotien. Ça s'appelle Chez Alfred, Lao Cuisine. Il faut y aller plutôt le soir. Ou en plus, dans un joli décor, il n'y a pas que les tables qui sont basses, les lumières aussi, et c'est plutôt agréable.
31 bis rue Amelot, dans le 11e.
Ah bah, tenez, 11e, reste... qu'est-ce que je dis 9e, plus 2, 11e.
11e, et on reste dans le quartier, rue Federbe. Rue Federbe, 22, 24 rue Federbe. Là, il y a un nouvel hôtel, un M Gallery by Sofitel. Vous allez me dire, oui, encore ces hôtels de chaîne, sauf que M Gallery, c'est vraiment une marque réussie, une marque du groupe Accor Hotel, donc, mais avec chacun sa spécificité. Et l'idée, c'est de venir s'installer dans des lieux historiques. Et donc, là, à Paris, qu'est-ce que c'était cet édifice? On a une superbe façade, on peut y aller que pour la façade, Art Déco qui date de 1926. Ils ont rénové totalement la mosaïque entre cuivré et bleu. Ça a été une ancienne fabrique de bois, mais aussi une manufacture de chocolaterie. Ça s'appelait Maison Boutet. Donc, les architectes qui commencent à être très connus sur la place parisienne, Vincent Bastier, mais aussi la designer Astrid Dieterlen, ont revu tout ça. On a installé des petites terrasses végétalisées sur les toits. Il y a 80 chambres, dont 10 avec terrasse. Vous imaginez, dans le 11e, quand même.
C'est bien,
sur 6 étages. L'intérieur, vous avez une petite piscine intérieure avec sauna, hammam et tutti quanti, donc aussi petite idée art déco, c'est pas immense. Et l'autre bonne idée, ils ont demandé à des élèves de l'école Boulle de réaliser deux suites emblématiques avec des ambiances différentes.
L'école Boulle qui est tout près.
Et ben voilà, justement, ils ont fait travailler les artisans du coin, les futurs artisans et décorateurs du coin. Il y a la suite Ébène, donc vous imaginez bien qu'il joue sur le boisson, et la suite Tech, donc là aussi, qui crée un cocon atypique autour de la couleur tech. un très bel hôtel, oui. Une très belle réussite. C'est le premier 5 étoiles de l'Est parisien. Ça s'appelle, je ne sais même pas si j'ai encore donné le nom, du coup je me suis emballée. L'hôtel Paris Bastille Boutet, et c'est un M Galerie. Et au moins, ne serait-ce que pour la façade, ne rentrez même pas, même si l'intérieur est très chouette.
Un restaurant
Non, il n'y a pas de restaurant. Ah, oh, mais c'est vous les restaurants, Emmanuel.
Vous êtes droit dans la façade.
Voilà, vous en chercherez un. Bah, là, peut-être que rue Amelot, on n'est pas si loin de
on
la rue
pas
Federbe.
Très loin, non, ça va.
Voilà, comme ça, voilà, on fait un 2-1, on prépare quand même vos petites balades touristiques dans Paris, c'est quand même pas mal. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Sandy Prenois,
bonjour.
Et vous, vous nous préparez nos balades sur le web, ouais. Et vous nous facilitez tellement la vie.
Avec tout d'abord cette application SNIT, la contraction de to sneak, se faufiler et to eat, manger. En fait, c'est une application qui va vous permettre d'avoir une table dans des endroits normalement irréservables. Alors, il y a des sous-sols.
Quand on ne s'appelle pas Emmanuel Rubin.
Voilà, comme des gens comme nous, on ne rentre pas, on attend des semaines, voire des mois pour rentrer chez Der Sous-Sol, Frenchy, La Régalade, Tout Mieux et beaucoup d'autres. Oula!
Alors, ça, c'est intéressant, il y en a tellement qu'on a essayé. Que ouais. J'aimerais bien savoir comment leur moteur,
voilà.
Leur matrice.
En fait, si vous voulez, ce sont des restaurants partenaires qui acceptent de rentrer sur l'application les annulations, les réservations qui n'ont pas été honorées. Et alors évidemment, il y a
Mais quel timing?
Ça peut être à la dernière minute et ça va jusqu'à 2 jours, je crois.
D'accord.
Et si vous voulez, c'est assez bien fait. Ça a un coût un petit peu quand même. On rajoute en tant que client entre 3 et 30 euros en fonction de l'établissement, de l'argent qui va être distribué entre l'application et le restaurant. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir ces tables-là qui restent sinon vacantes.
Ou une journée à l'avance, c'est à peu près au moins légitime.
C'est ça.
Après, faut tester ça.
Vous avez, faut tester.
Vous allez m'amuser, ça.
Ça s'appelle SNIT, ouais. S-N-E-A-T.
Mais c'est drôlement bien vu, parce que c'est devenu infernal.
Il y a
une espèce de course à la nouveauté, à l'échalote du neuf à Paris, en matière de restaurants, qui
mais
sont
même,
devenus insupportables.
Même ces adresses
trois
comme
semaines,
Frenchy,
un mois,
Frenchy,
Frenchy, Frenchy,
Frenchy,
Frenchy,
jamais. Mais voilà.
Hein, c'est impossible.
Ouais, voilà.
C'est impossible. C'est très fatigant, croyez-moi.
Allez, on reste dans la thématique, Samy.
Oui, avec Food Cherry. Alors là, c'est un restaurant online qui va vous préparer. Alors tous les jours, il y a deux nouveaux plats et deux nouveaux desserts. Des exemples, saumon curry coco, ananas roti vanille, citron vert. Un plat qui coûte 9,90 €, un dessert à 3,50 €. L'idée, c'est qu'en fait, vous le recevez chez vous en moins de 20 minutes avec un livreur qui arrive en vélo. Pour tenir cette promesse-là, les clients sont invités à descendre pour récupérer les plats et à les réchauffer eux-mêmes. Mais a priori, ça marche bien. Moi, je ne l'ai pas encore testé. C'est plutôt pas mal. Ça évite d'avoir à faire. Et voilà.
Et bien voilà. Et
voilà, je vous
menu,
sens un petit peu sceptique, cela dit.
Mais non, moi, je vais tout tester.
Nouveau menu tous les jours avec des produits frais, évidemment, de saison qui sont privilégiés. Livraison à Paris et proche banlieue.
Alors, il y a un petit peu le même système avec Frichetier. On en parlera la semaine prochaine dans Good Luxe Paris. Voilà. Allez, une dernière chose avec Piaget.
Oui. Piaget avec ce nouveau concours, jeu concours sur Instagram pour tenter de gagner une rencontre à New York avec Olivia Palermo, qui est une icône de la mode. Alors, il va, pour jouer, il vous suffit de vous inscrire sur le compte Instagram de la marque Piaget, de créer une vidéo grâce à l'application Boomerang et de la poster avec le hashtag MyTurn. Pourquoi MyTurn? Puisqu'en fait, c'est la devise du moment chez Piaget. Tourner et d'un geste, le monde vous appartient. Donc, on a compris, vidéo 360 degrés, on laisse libre cours à son imagination et on dévoile ce qui nous entoure. Le concours, c'est jusqu'au 15 avril prochain. Toutes les infos sur le nouveau nanosite possession.piaget.fr. Possession, c'est la nouvelle ligne de bijoux avec ce bracelet phare qui fait sensation. C'est le bracelet Possession. Un nouvel espace en ligne, ce nouveau nanosite dont je vous parle, qui est très beau, comme toujours chez Piaget, avec des liens, des photos, des vidéos. C'est un espace digital absolument merveilleux.
Possédé,
je suis possédée. Et on prolonge.
Quand on va rencontrer une Palermo.
Bah, ça vous fait. Si vous aimez la mode.
Et pour aller à New York.
Et je termine avec quand même ce petit mot. On prolonge l'expérience digitale en allant 7 rue de la Paix où il y a un lounge Possession qui est installé et qui vous accueille actuellement.
Mais là, il n'y a pas de Mademoiselle Palermo.
Non, là, il n'y a pas Olivia. Ouais, non.
Je serais curieux de savoir. Vous voudrais voir l'expérience du gagnant. Donc, il va aller à New York face à Palermo. Il n'a rien à lui dire.
Vous parlez mode, vous parlez tout ça, quoi. Possession.
Possession.
Ou alors, vous la draguez, moi, j'en sais rien.
Bon, bah, imaginez. Pas. Je vais faire le concours.
En attendant, merci infiniment Sandy Prenois. Et pour vous rencontrer, c'est tous les week-ends sur BFM Business.
Oh, jolie transition.
Merci beaucoup à vous. Allez, nous, on poursuit notre petite visite de Paris. Emmanuel, professionnels, vous nous emmenez dans une petite boutique.
Une boutique. La boutique événement du moment.
Waouh. Rien que ça.
C'est hallucinant. Ça se situe exactement au 20 de la rue Barbette, 4e arrondissement, plein cœur du Marais. L'arrivée enfin à Paris, quasiment en Europe, puisque la première adresse a ouvert à Londres il y a quelques mois. Et là, la première à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez intérêt à connaître si vous voulez être un tout petit peu dans la tendance. Ça s'appelle Suprême.
Ah ouais.
Et là, sincèrement, aujourd'hui, et notamment le week-end, c'est à peu près 800 mètres de queue. C'est hallucinant. 4 heures pour pouvoir intégrer la boutique.
Mais pourquoi il y a aussi des hommes nus qui se...
Pas du tout, parce que ça appartient un petit peu à ces grandes marques américaines, et pas seulement, qui travaillent, vous savez, sur la stratégie du rare. Alors, c'était il y a quelques saisons à Vercombe, en bas des Champs-Élysées. On ne pouvait pas intégrer la boutique à moins de quasiment prendre réservation. Aujourd'hui, on y rentre plus qu'aisément. Là, en tout cas, pour l'instant, c'est Suprême qui tient la corde. Alors, Suprême, c'est une des marques fétiches de la jeune garde, notamment de ce qu'on a appelé le mouvement hipster. Pour autant, c'est une marque qui a 22 ans, créé en 94 à New York par deux jeunes hipsters avant l'heure. C'est vraiment la marque qui incarne cette culture dite urbaine. Vous savez, lorsque la mode vient se frotter aux sonorités punk rock, au skateboard, au hip-hop, à l'univers de la glisse, c'est un carton plein. Ils sont très connus pour leurs t-shirts, pour leurs casquettes. Alors, vous n'êtes pas obligé de les porter, vos enfants peut-être. Parfois, vous pouvez les mixer. En tout cas, il faut aller voir ce qui est pour l'heure une manière de légende urbaine, c'est-à-dire la boutique Suprême. Franchement, c'est un grand moment. Peut-être que dans 6 mois... qu'ils ont mis des années avant d'arriver à Paris.
On attend l'appli pour réserver dernière minute chez Suprême.
Hein, vous pouvez même appeler jusqu'à présent. C'est comme ça qu'on avait les fameuses casquettes Suprême. Fallait passer par l'appli.
Barbette, donc, dans le 4e pour la boutique Suprême. Allez, je termine rapidement avec l'objet de la semaine. Là, c'est pareil. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans les hôtels Roccoforte, hôtels, vous en avez par... Vous avez par exemple l'hôtel de Russie à Rome, l'hôtel Savoy à Florence, et vous en avez encore plus loin. Eh bien, ils sortent leur gamme de cosmétiques disponibles sur leur site internet. Comme ça, vous payez un petit peu de Roccoforte hôtel. Ils sont fabriqués donc en Italie, c'est des ingrédients organiques italiens et même la plupart de ces produits viennent du jardin du Roccoforte de Sicilien. Donc vous avez du lait démaquillant à l'amande, des choses, des toniques à agrumes, de l'hibiscus, de la crème de nuit, du gommage, des soins pour le corps, etc., etc. So chic, je les ai pas encore testés. On teste. Si jamais j'ai changé de tête la semaine prochaine,
ça, c'est facile à tester.
Je vous dirai. Mais voilà, ce sont vraiment des petits produits so chic. Et puis c'est toujours plaisant de se ramener, de se sentir encore un petit peu
on se croit un
à,
petit
l'hôtel
peu à l'hôtel
lorsqu'on est chez soi. Voilà, je vous
allez,
montre quand même
allez,
le petit
packaging.
Hop, là, transparent. Voilà, le petit packaging.
Ça c'est quasiment un packaging de voyage. Ça c'est bien.
Et ben justement, c'est ça l'idée aussi. Ça s'appelle Forte Organique, cette petite ligne de cosmétiques. Voilà, disponible sur le site internet. Allez, justement, le shopping, on va en faire. Attention, soyez prêts. On fait coup de projecteur sur ces multimarques parisiens qui ont envahi les pavés de la capitale. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodlux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et Goodlux fait son shopping cette semaine. Coup de projecteur sur cette nouvelle génération de concept stores, de magasins multimarques qui vous font découvrir toutes les nouvelles marques françaises, mais pas seulement marques de mode. Nous sommes en compagnie de Sébastien Kopp. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de Centre Commercial. 5 ans cette année. L'ouverture, c'était novembre 2010. Nous sommes en compagnie de Nissat Golampir. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondateur de V Barber and Shop. C'est aussi dans le 10e arrondissement, mais dans un autre quartier. C'est un petit nouveau puisque vous êtes ouvert depuis juin 2015. Ouais. Et nous sommes en compagnie de Régis Pénel, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de L'Exception, un nouveau concept store, puisque pour la première fois, un flagship, une vraie boutique à la Canopée des Halles, ça vient tout juste d'ouvrir, même si le site, lui, date de septembre 2011. Alors effectivement, pardon, je me tourne vers vous, Sébastien Kopp, mais parce que là, vous avez fait un petit peu d'ancêtre, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'on a vu évoluer et se multiplier. Il y a eu la génération Colette, où après, il s'est ah bah c'est grand chose. Et puis depuis 5 ans, multiplication des concept stores, des multimarques, avec aussi une multiplication de l'offre. On peut peut-être rappeler, vous, votre positionnement chez Centre Commercial au départ.
Bah, nous, à la base, on a créé il y a 10 ans une marque de basket qui s'appelle Veja. Et qui est devenue, d'une aventure, c'est devenu une entreprise, une marque globale. Et du coup, on a ouvert Centre Commercial il y a 5 ans. Pour souligner et créer un tremplin pour d'autres marques afin de souligner le besoin d'un engagement écologique, un engagement social,
éthique
dans la production Et dire aussi, exprimer à travers ce lieu-là, qui s'appelle Centre Commercial, que c'est possible d'avoir une offre mode complètement différente. Et complètement différente dans son sourcing, c'est-à-dire dans sa production. Donc on mélange, on fait du picking international parmi des marques qui ont un engagement très fort, que ce soit des marques qui sont fabriquées en Allemagne, en France, en Angleterre, en Europe, ou des marques qui utilisent des matériaux écologiques comme le coton bio, comme le lin, comme il y a plein de marques différentes avec autant d'engagements différents. Et on a essayé de créer un lieu qui soit un tremplin pour ces marques-là et un tremplin international vers le public.
On rappelle juste, j'ai pas encore donné l'adresse, pardon Emmanuel, je vous laisse parler, mais c'est rue de Marseille, dans le 10e.
Justement, c'est intéressant parce que, comme le disait Karine, depuis 5 ans, il y a eu beaucoup d'émergences comme cela de concept stores. Alors, certains durent plus ou moins bien, d'autres ont déjà disparu. C'est un genre qui s'installe, c'est vraiment un nouveau genre de boutique de consommation. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à un bon concept store? Qu'est-ce qui inscrit sa légitimité? C'est comme vous pour centre commercial, partir du dîner fort, c'était la marque Vega, et puis derrière, une ligne éditoriale quasiment, celle d'un engagement, d'un sourcing pointu autour d'une idée, si c'était citoyenne, du moins écologique. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à un bon concept store? Ce qu'on en voit notamment dans les quartiers, on va dire, allez, pour aller vite, bobo, du 9e, 10e, 11e, fleurir. Et souvent, on a l'impression qu'ils sont plutôt des vitrines où on mélange un peu tout et n'importe quoi, à la limite de la gadgeterie. Et finalement, là où ils étaient pleins d'à-propos il y a quelques saisons, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt un filon. Qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que ce genre va s'installer et pouvoir durer?
Je ne crois pas que ça soit un filon. Je crois que c'est plutôt une génération qui s'exprime. Moi, j'ai 36 ans. C'est la première génération digitale, la première génération qui a connu Internet. Et qui a connu le tout Internet, et on a besoin de se réexprimer, de se réapproprier des lieux physiques où on peut exprimer quelque chose de fort et de varié. Par exemple, on fait des lancements, on fait des cocktails et on lance des produits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. On a par exemple lancé le bouquin de Julian Assange en 2012. Donc Julian Assange de WikiLeaks. On a lancé le crowdfunding du film Demain.
Donc il y a toujours cette idée qui était propre à un peu d'un label. Qui pourra rassembler un petit peu ce qu'on a vu créer parfois dans la musique, c'est que au-delà du dîner forte, ici le côté un peu citoyen, écologique et engagé, aller faire parler le commercial, les produits, la mode, mais pourquoi pas avec la culture, les livres, l'édition, le cinéma. Oui, c'est important ça qu'est ça dans ces lieux dits de concept store.
C'est exprimé. Enfin pour nous, après moi j'ai pas de leçons à donner.
Mais vous êtes un vétéran, vous êtes.
je sais bien parler de ce qu'on fait, mais je sais très bien parler de ce que font les autres, donc.
Alors c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, passons à Régis, qui lui rebondit sur ce que vous avez dit, qui a commencé il y a 5 ans via le digital, et qu'aujourd'hui, finalement, à l'intérieur de cette fameuse canopée d'Éal, inaugurée cette semaine, installe sa première boutique en dur. C'est un passage aussi obligé, ça, finalement, après de légitimer avec une vraie boutique, un vrai lieu de rencontre, et de ne pas rester finalement sur l'univers digital, un peu désincarné parfois.
Alors, un passage obligé, je suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens qui ont des boutiques en ligne et qui n'ont pas le désir de créer une boutique physique. Par contre, pour nous qui vendons de la mode, et notamment de la mode haut de gamme de créateurs français, c'est un moment où il y avait une vraie attente de nos clients. Et c'est vrai qu'on avait un showroom installé dans le 10e, comme quoi le 10e est un quartier qui fleurit.
On va dire c'est un creuset.
Exactement, c'est un creuset de multimarques. Et ce showroom n'était pas du tout à la hauteur de la qualité de ce que nous faisons sur Internet en termes de, à la fois de concept et aussi de services qu'on peut apporter à nos clients. Et donc on avait dans la tête depuis assez longtemps de trouver un lieu pour faire une très belle boutique. Et c'est vrai que la Canopée est un projet qui est arrivé avec un espace absolument magnifique qui fait 360 mètres carrés. Donc un espace comme ça au cœur de Paris, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Et on a été séduit par cet espace en fait. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu cette opportunité, peut-être qu'aujourd'hui il n'y aurait pas encore de boutique physique d'exception.
C'était l'occasion qui a fait le larron finalement. Et par rapport à ce que disait Emmanuel du concept store, là vous y ajoutez la restauration.
Exactement. Parce qu'on voulait faire un espace qui soit un espace de convivialité, où là, aujourd'hui, les clients qui passent une commande, on les invite à prendre un café gratuitement. On voit que là, on a ouvert hier soir à 18h, donc c'est vraiment très récent. On voit que les gens rentrent par la boutique, vont vers le café. Et beaucoup de gens nous disent, ah, c'est sympa, il n'y a aucune séparation. Vraiment aucune. On se promène, on passe un bon temps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui va se faire de plus en plus, c'est la mixité de concepts au sein d'un même concept store, en fait.
On va faire plein de choses chez Yves Barber Shop, c'est exactement ça, Nice de Gaulle Empire. Donc là, on est rue du Faubourg Poissonnière. Alors vous, c'est pas le restaurant, c'est le barbier.
Et aussi, un espace de mode dédié à l'homme.
Voilà.
On a voulu vraiment
c'est
un concept unique.
Voilà. C'est une boutique pour hommes.
Oui, tout à fait. Donc voilà, on a voulu trouver une certaine cohérence autour de l'idée du concept store vraiment masculin. Donc du coup, on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait à l'étranger, donc socialement à New York avec les anciens barbershops. On a exactement...
D'ailleurs, c'est quoi le V de
En fait, à la base, c'était Victoire.
D'accord.
Et du coup, on avait des problèmes parce qu'il y a une marque qui s'appelle Victoire. Donc du coup, on a gardé
alors qui fait la poule de l'œuf. Les gens, ils rentrent dans la boutique d'abord parce que c'est un barbier et après ils vont à la manière comme cela, vous l'avez dit, d'une émulation de shopping, aller vers la mode, ou bien c'est d'abord la mode et après à l'occasion ils vont se faire tailler à la barbe.
Nous, l'idée de base, c'est vraiment d'allier les deux. Et en fait, nous, on a commencé qu'avec le côté shop, parce que étant donné qu'on est, on est trois derrière le VBS, mais le problème, c'est que aucun d'entre nous savait vraiment couper ou tailler.
Ah, c'est un métier.
Donc,
on a commencé
par la boutique. Et ensuite, fil en aiguille, on a embauché des bons barbiers. On s'est renseigné. On a essayé de. On s'est formé. On a vu un peu la concurrence. On s'est vraiment imprégné d'Internet. Enfin, Internet joue beaucoup aujourd'hui.
Mais les clients, quand ils rentrent, ils viennent d'abord pour se faire raser ou d'abord
Maintenant, bizarrement, ils viennent tous pour se faire. Raser, couper les cheveux et ensuite derrière ils viennent découvrir un peu le magasin avec la sélection de marques aussi venue de. On a basé essentiellement sur l'histoire et aussi sur la qualité des produits. Donc de faire quelque chose qui soit en corrélation avec l'homme moderne d'aujourd'hui et l'homme parisien.
On va revenir sur la sélection, le travail de sélection, de picking ou de sourcing,
c'est
et puis quelques-unes de vos marques.
Aussi, sélection, c'est bien.
Sélection. quelques-unes des marques que vous allez vouloir ou pas mettre en avant. Juste pour revenir, Régis, sur l'exception, c'était quoi la ligne de fuite? C'est quoi le discours?
Alors, le discours, simplement, c'est d'amener le meilleur des marques françaises à nos clients. Et à nos clientes, vu qu'effectivement, on a vraiment 50% de notre offre sur la femme et 50% sur l'homme. Et la deuxième chose, c'était aussi de faire découvrir des nouvelles marques, de faire découvrir des produits. Donc en fait, on a beaucoup de marques qu'on va parfois lancer sur une toute première collection. On peut être des fois la première boutique à la diffuser ou avoir des marques, si on en cite une comme le Courrégant, où on a une production faite que pour nous. Elle est distribuée nulle part ailleurs. On a juste été les voir en disant, maintenant vous allez nous produire 6 pièces pour nous, uniques, fabriquées en Bretagne. Donc c'est vraiment ce parti pris là d'aller dénicher les petites pépites et aussi de d'avoir, on a beaucoup d'exclusivités. Là on va fêter les 5 ans cette année, on a fait créer 50 exclusivités par 50 créateurs différents qui chacun ont travaillé sur une thématique couleur, sur l'été simplement, et qu'on peut découvrir aujourd'hui à la boutique de la Canopée. Et c'est vraiment ce parti pris là de pouvoir avoir des très beaux produits pour nos clients de marque française.
Mais c'est étonnant parce que quand on regarde justement cette sélection, donc je crois que parmi les 50 qui vont créer pour vous, il y a des gens très connus aussi, on est moins dans la découverte.
Alors on ne peut pas faire que de la découverte. L'idée, c'est aussi de rassurer nos clients avec des marques qu'elles connaissent et comme ça, de les amener après vers la découverte. C'est-à-dire qu'en fait, on voit souvent que les sites, entre guillemets, ou les boutiques de jeunes créateurs ont du mal à marcher parce qu'en fait, lorsqu'on arrive sur un site et qu'on connaît aucune marque, on va avoir du mal à passer à l'achat. Les gens vont arriver chez nous, je prends une cliente haut de gamme qui va voir du Alexis Mabille et elle va se dire, c'est un site de qualité pour vendre Alexis Mabille. Alexis Mabille nous a fait une pièce exclusive.
Mais il a quand même fait une pièce exclusive. Et,
exactement. Mais à côté d'une marque comme Sessoun, à côté d'une marque comme Cacharel, et à côté de très jeunes créateurs, créateurs comme Nicolas Tail, qui fait des pièces complètement uniques, et il nous a fait une pochette. Donc c'est vraiment ce mix-là qui marche très bien, justement.
On va vite parler de tout ce beau monde.
Mais voilà, on va revenir sur cette sélection. On fait d'abord une petite pause sur BFM Business. Et oui, c'est déjà l'heure de la pause. Et on se retrouve juste après. On a encore un quart d'heure pour faire du shopping, du magasinage, comme disent les Québécois ensemble. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Good Luxe Paris en balade dans les concept stores parisiens, ces multimarques qui nous permettent de découvrir les créateurs français et internationaux qui se lancent. Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Kopp, cofondateur de Centre Commercial, de Nissad Golempire, cofondateur de V Barber and Shop, et de Régis Penel, fondateur de L'Exception, qui a donc ouvert cette semaine sa boutique sous la canopée aux Halles. Vous nous disiez tout à l'heure, Sébastien Kopp, que Centre Commercial, l'idée c'était de l'éthique, de la transparence, etc. De l'engager. Même, on peut faire un tour de toutes les marques que vous avez aujourd'hui. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elles sont les mêmes? Est-ce que les marques que vous aviez il y a 5 ans, lorsque vous avez ouvert, elles sont toujours là aujourd'hui? Ou est-ce que ça tourne beaucoup? Comment ça se passe?
Oui, il y en a beaucoup qui sont là depuis 5 ans. Et c'est vrai que le choix a grandi avec l'affluence de la boutique. Non, Centre Commercial, on a quelques marques phares comme... Pour hommes, par exemple, Bleu de Paname.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais. Qui est installé,
ouais. Ils ont commencé en 2008 ou 2009, je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est une marque qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait, ce que Centre Commercial a créé, c'est comme une famille. C'est-à-dire que on se connaît tous très bien. On fait beaucoup de choses en parallèle, et en fait Centre Commercial c'est un lieu aussi pour créer des collaborations entre les marques, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de lancements de collaborations entre marques, et donc il y a Bleu de Paname, il y a Roséana pour femmes, qui est une marque qui marche super bien, c'est deux jeunes femmes super talentueuses qui sont devenues des copines. On essaie de vraiment de créer un écrin pour eux, et d'être à leur écoute et de traiter chaque marque comme si c'était la nôtre.
Mais oui, d'autant qu'on rappelle quand même, pour ceux qui prennent en cours de route, que vous, c'est la marque Veja, également la marque de basket Veja. La question inverse, est-ce que d'autres sont arrivés, l'année dernière, cette année, est-ce que d'autres marques arrivent de plus en plus? Est-ce que vous êtes plutôt à vous dire, il faut qu'on fasse un choix?
Ah oui, on fait un choix, oui. On reçoit 200, 300, 400 mails par jour de marques partout dans le monde qui aimeraient travailler avec nous. Donc forcément, il y a une sélection. Et en fait, pour nous, c'est une double sélection. C'est-à-dire que l'esthétique compte autant que la façon de produire. Et l'un ne va pas sans l'autre pour nous. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une très très belle marque, très jolie, qui produit, si elle produit en Chine ou au Bangladesh, on ne travaillera pas avec eux. Ou si elle ne nous garantit pas une totale transparence, j'allais parler anglais, une totale transparence et traçabilité dans la production, on ne peut pas travailler avec eux. Donc les deux piliers de Centre Commercial, c'est l'esthétique et la traçabilité, la transparence.
Vous pouvez nous citer la dernière découverte, peut-être la dernière marque qui vous a fait, même si c'était il y a un an, il y a 6 mois ou hier, qui vous a fait un peu vibrer? Alors, on salue toutes les autres passages, parce que je sais que pour chacun d'entre nous, c'est difficile de
choisir. La dernière marque qui est rentrée, bon, c'est pas une découverte du tout, mais c'est la dernière marque qui est rentrée la semaine dernière, c'est Comme des Garçons.
Qui est
une marque
japonaise
et on a intégré leurs parfums qui sont fabriqués en Normandie. Je crois qu'ils ont lancé il y a 7-8 ans. Donc ça, c'est pas vraiment une découverte, mais...
Que le parfum Comme des Garçons soit fabriqué en Normandie, je savais pas du tout. C'est aussi ça, la traçabilité, c'est qu'au-delà d'une marque, et une marque qui a vraiment bougé les codes de la mode à la fin des années 80, ça a été dans les grandes marques qui a vraiment taillé une silhouette féminine, entre autres, mais qui existe depuis, mais je savais pas du tout que leur parfum était Made in Normandie.
Ils sont de plus en plus, Comme des Garçons, qui est une marque japonaise, et de plus en plus attentifs à la façon de produire. Et c'est bien, enfin, il y a plein de marques et plein de créateurs d'ailleurs, qui font de plus en plus attention, et plein de concept stores comme nous trois aujourd'hui, qui font de plus en plus attention à ça. Et je pense que c'est un vrai mouvement générationnel.
Je voulais juste citer aussi Centre Commercial Enfant, qui est juste à côté, avec évidemment la même idée, où on trouve aussi certains objets.
Emmanuel. Alors, Régis, vous, on l'a vu, la ligne de fuite, le cadrage qui opère lorsque vous devez sélectionner les produits qui accompagneront l'exception, c'est plutôt le Made in France. C'est ça.
Pas le Made in France. C'est pas exactement
création
ça.
Française.
C'est
la
création française.
Exactement.
Qui peut être créée en Europe.
Exactement. Et en fait, on va un petit peu plus loin. C'est qu'en fait, on a des créateurs qui produisent en Chine. Enfin, on en a une surtout qui s'appelle Ming, pour une marque qui s'appelle Three Animals, qui va faire du denim chinois traditionnel, où elle va dans les villages, elle nous ramène des photos, de faire revivre des traditions comme ça millénaires de la Chine, fabriquer ça dans des ateliers, qu'elle connaît très bien, où effectivement il y a cette traçabilité. Et le produit ne sort pas moins cher qu'un produit fabriqué en Europe. Clairement, un produit comme ça, qualité fait à la main, ça sort au même prix qu'un produit européen.
Ça, c'est une autre histoire. C'est presque la nouvelle histoire chinoise. Près de 400 créateurs aujourd'hui sur le
400
site.
400 marques aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on fait de la femme et on fait de l'homme. On a un petit peu d'accessoires, enfin, pas mal d'accessoires d'ailleurs. On fait un peu de maison, de déco. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de citer 400 marques.
Bien entendu.
Donc on a plein de coups de cœur. Je ne sais pas si...
Les deux marques fétiches, comme ça, pas plus.
Alors exactement. Récemment, une marque qu'on adore, Fête Impériale, qui est une marque toute récente, qui en est sur sa deuxième collection, qui va buzzer, à mon avis, dans
la
saison qui
vient.
C'est de la femme, pardon.
La femme.
C'est de la femme, il faut voir son lookbook, c'est juste assez incroyable. Il faut un vrai travail de fond. Je vous invite à aller voir sur l'exception.
Fête Impériale.
Ça s'appelle Fête Impériale. Je pense que vous découvrirez, vous allez adorer cette marque-là. Après, moi, sur l'homme, on a toujours eu un coup de cœur sur De Bonnes Factures, qui est vraiment une créatrice qui a un parti pris très fort sur du Made in France, avec une traçabilité complète sur la production, sur les matières, où on sait que le bouton, il vient de tel endroit, la production est faite là. Et là, on est vraiment sur un produit très haut de gamme et de qualité.
Régis, très sincèrement, 400 marques, on le voit, hein, vous êtes aussi quelque part des tuteurs, des gens qui accompagnaient cette jeune création, ce qu'on pourrait appeler les nouveaux artisans, ce que certains appellent les baby brands. La saison économique est quand même difficile, la conjoncture est compliquée. Même si vous les accompagnez à travers vos boutiques, vos sites internet, tout, c'est difficile. J'imagine que ces boutiques, il y en a beaucoup, enfin que ces jeunes marques, il y en a beaucoup qui se cassent la nénette très rapidement.
Malheureusement.
Comment on arrive aujourd'hui à encore les accompagner?
C'est assez compliqué depuis maintenant qu'on a un peu plus de 4 ans d'expérience. On a vu beaucoup de marques avec lesquelles on a démarré en 2011-2012 qui aujourd'hui disparaissent. Effectivement, c'est des marques on passe un cap où au début on gagne 1, 2, 3, 20, 30 boutiques et puis c'est pas suffisant non plus pour se payer un salaire ni pour gagner de l'argent et ils ont du mal à passer au-dessus. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, j'ai malheureusement des créateurs qui m'appellent presque tous les mois en disant c'est bon, j'arrête là, je vais passer à autre chose, je serai bien payé à travailler ailleurs. Donc malheureusement, c'est ce qui se passe. Et
c'est le cap des 3 ans généralement.
En général, c'est le cap des 3 ans. Mais c'est souvent le cas dans la plupart des sociétés.
Nissa de l'Empire, j'aimerais insister un petit peu avec vous chez V Barber and Shop. Donc que de l'homme, il faut vous repoissonner. De l'international aussi, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé justement de l'international.
Nous, essentiellement, on fait plus de l'international que du français, même si on a quelques marques.
Justement, alors racontez-nous.
Du coup, nous...
Très américain, du coup.
Très américain. Ouais. On a en maroquinerie du Winter Session, où en fait, ils travaillent essentiellement... C'est du fait main, etc., avec du bon matériel, enfin, des bons produits. Enfin, ils fabriquent de bons produits, pardon, donc avec... en cuir ou autre, et du coup pareil, donc c'est des anciennes marques qui sont revenues au goût du jour, donc qui ont revu un peu leur politique aussi de production, donc ils sont revenus sur ce qui se faisait avant, ce qui marchait, donc avec de très beaux produits.
Donc ça, c'est pour de la maroquinerie.
Voilà, donc aussi,
en termes de mode, c'est quel style?
Donc en fait, on a des jeans, donc aussi new-yorkais, donc de chez 316, donc une vraie découverte. Donc lui qui est venu de passage à Paris, qui a découvert la boutique, qui était
Lui qui est venu frapper à votre porte.
Oui, voilà, tout à fait. Donc il a dit que en gros, il avait adoré l'espace. Il avait dit que lui, c'est ce qu'il attendait d'une boutique physique et il avait adoré. Donc il a voulu travailler avec nous. Donc on a des jeans de très bonne facture. Ensuite, on a la maroquinerie. On a aussi des chemises de chez Corridor, par exemple. Aussi, c'est du fait main avec au niveau de la qualité des tissus, etc. Je pense que...
C'est pas tellement... Emmanuel, vous parliez tout à l'heure de l'esprit suprême, la boutique...
On est dans un autre esprit. Je parlais de Suprême qui vient de s'installer à Paris dans le Marais, non? En 94, lorsque les deux créateurs de Suprême s'installent à New York et commencent à créer autour de cette culture trip-hop, tout ça, ils sont sur cette énergie-là au début. Aujourd'hui, eux, la gestion de croissance, je rappelle, Suprême, c'est 1994, ils ont 22 ans. Ça fait, ils ont des boutiques partout aux États-Unis, au Japon. Mais au départ, l'action, c'était dans cette énergie. D'ailleurs, c'est étonnant, vos boutiques, parce que vous parliez d'un côté générationnel. À vous écouter, Nissad, c'est vrai que ça rappelle un peu... Alors, je ne les ai pas vécues, alors j'étais tout petit. Mais ce qu'étaient les boutiques dans les années 60 de disques. où, vous savez, les boutiques de disques, il y avait ce talent à faire venir des exports. Et on allait comme ça piocher des disques et donc découvrir ce qu'allait être le pop, le rock, parce que c'était ces boutiquiers-là qui arrivaient à sélectionner à travers le monde des disques et des labels que tu connaissais pas. Et aujourd'hui, ce travail-là, un petit peu dans l'univers de la mode et de la création, ben, c'est quand même les concept stores qui les font. Et on voit après que pas mal de maisons que vous avez pu accompagner ou lancer se retrouvent désormais, parce que vous avez quand même bousculé grandement les grands magasins, dans les grands magasins. Donc c'est vraiment quelque part, quand on parlait de générationnel, et d'ailleurs ils ont tous des gueules un petit peu de ils pourraient tous avoir des groupes de rock, mais ils font le boulot que faisaient dans les années 60 vraiment les marchands de disques, les vrais disquaires, où tu allais découvrir des labels, et c'était le culte de l'export, quoi.
Non, mais on est aussi la génération qui a vu l'avènement de la fast fashion, c'est-à-dire l'avènement d'H&M, Zara, etc. Ça, ils sont pas si vieux que ça, ils ont 15 ans. Et on a grandi avec eux, et c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui tous les trois, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est du slow shopping,
décélération,
exactement. C'est prendre le temps, chercher des produits qui sont bien fabriqués, de très bonne qualité, qui aient une vraie histoire derrière, pas une histoire un peu bullshit ou pas une histoire marketing et une identité très forte. Et en fait, tout le monde, quand on a lancé Centre Commercial, tout le monde rigolait un peu. Aujourd'hui, c'est devenu un magasin phare en Europe où on a plein d'autres magasins européens qui viennent voir, qui s'interrogent et qui regardent les clients avec des gros yeux et qui se disent pourquoi les gens viennent là alors que c'est un quartier un peu hors du chemin commercial habituel. Et nous, c'est ça qu'on veut prouver, c'est que en fait, une autre façon de consommer est possible.
Et qu'il y a quelque part, et c'est pas un gros mot, moi, je défends, en tout cas, pas tous les concept stores, mais lorsqu'ils ont les grands enjeux que vous avez dit, c'est-à-dire vraiment un discours, un engagement, une transversalité. Vous parlez de collaboration entre les diverses créations. J'allais dire presque une transversalité entre le monde digital et aussi la boutique en dur, vécu comme un lieu de vie. Tout ça fait la force d'un concept store. Alors, il y a beaucoup qui, effectivement, s'improvisent, mais à mon avis, ne durent pas. Mais tous ceux qui durent, on l'a vu quand même, Colette, qui est le grand aîné, et a quand même créé une manière de logiciel sur laquelle vous inspirez avec des discours différents. Et aujourd'hui, c'est vraiment des magasins qui inventent une manière de culture shopping.
Et puis, je crois que ce qui fait la différence dans les concept stores, c'est quand vous parlez de bon ou mauvais concept store, j'ai pas à juger, mais c'est je pense que la quantité d'amour qu'on met dans un projet, finalement le fait durer, le rend pérenne. Parce que voilà, je pense que c'est ça la différence entre les bons ou les mauvais concept stores. J'ai pas à juger encore une fois, mais c'est vraiment, faut le faire avec amour, quoi.
Exactement.
Ouais, on sent que vous y mettez tous un petit peu de vous-même. Aujourd'hui, justement, pour rebondir sur le digital et sur la boutique de l'exception, c'est vrai que c'est toujours compliqué de passer 400 créateurs ou dans les 360 mètres carrés, même si c'est grand, on peut pas mettre les 400 et les je sais pas combien, 10 000 articles que vous avez sur le site. C'est un peu compliqué. Donc forcément, on digitalise tout ça. Et là aussi, c'est une nouvelle
C'est un nouveau challenge. C'est une nouvelle manière de vendre. On a eu un parti pris dès le départ de se dire, on est un site internet, comment on fait une boutique? Donc ça change déjà la donne. Et comment est-ce qu'on va montrer notre catalogue à l'ensemble des clients? Donc effectivement, si vous venez dans la boutique L'Exception, vous verrez, il y a des écrans partout. Après, ces écrans-là, c'est des écrans qui sont des écrans d'aide à la vente. Très peu de clients vont les regarder eux-mêmes. En fait, ce sont les vendeurs qui les aident. Et si vous cherchez, par exemple, une robe blanche parce que vous avez un mariage, vous aurez peut-être trois robes sur important, mais en fait, sur les écrans, vous verrez qu'on en a 25. Et qu'en fait, la plupart de ces robes sont disponibles en stock, ne sont pas sur le floor, mais dans le stock, et on peut les sortir immédiatement, ou peuvent être amenées quasiment dans la journée ou en 24 heures à la boutique, où vous pouvez passer la commande directement ici en ligne et vous faire livrer. Donc, c'est à la fois une vitrine, c'est l'inverse du showrooming. En fait, on est en boutique, on peut acheter sur internet, on peut acheter en physique. C'est la boutique d'avenir, et on a eu des clients aujourd'hui qui ont été assez bluffés par ce qu'on a fait d'un point de vue digital, parce que c'est pas un gadget, c'est un vrai outil de vente.
Et c'est vraiment votre personnel qui accompagne le client.
Exactement,
vers cet écran.
Tout à fait.
Même si à terme, vous verrez des gamines, elles iront toutes seules.
C'est terminé.
Vous avez ma fille, ça va être quelque chose.
En tout cas, l'adresse dorénavant, c'est donc Rue Berger, sous la canapé idéale. Pour l'exception, et bien sûr, toujours le site internet. Centre commercial, c'est toujours rue de Marseille et rue pour les enfants.
Rue Yves-Toudic.
Rue Yves-Toudic, voilà.
Ah, rappelez-moi,
c'est juste à côté. Hein.
Avec dans le meilleur boulanger de Paris entre les deux.
Là, vous pouvez passer l'après-midi.
Le pain des amis, vous lui commandez. c'est sa grosse niche, excellente. Quand il est là, hein, quand il veut bien ouvrir.
Mais c'est fermé le week-end.
Ah oui, c'est ça, boulanger fermé le week-end.
Rue Faubourg Poissonnière, on retrouve V Barber and Shops 96, donc ouais, pour les hommes uniquement.
Oui, tout à fait. Et nous, on a prévu incessamment sous peu de lancer un coin coffee shop aussi.
Ah, donc, voilà. C'est pareil, on pourrait y passer la première bon boulanger. Nissan de l'Empire, merci beaucoup à vous, Sébastien Kopp et Régis Fenel. Merci à tous les trois. Allez, restez avec nous. Good Luck Paris continue dans un instant. C'est l'agenda.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luck Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et c'est l'heure à laquelle Good Luck vous emmène voyager dans un instant avec MyMoonSpots.com. Mais tout d'abord, le livre de la semaine, et finalement c'est une certaine forme de voyage dans Good Luck Paris. On aime vous faire voyager à travers la capitale. Vous vous souvenez d'un livre, Emmanuel, les boutiques d'antan, je crois que ça s'appelait quelque chose comme ça, chez Parigram. Et bien là, ils ont sorti la même chose, mais avec les restaurants. Donc Paris, restaurant d'antan et de toujours. Donc là, je sais que vous l'attendez au tournant, ce bouquin de Parigram. Donc à votre avis, on va retrouver quel restaurant?
Oh, toujours les mêmes.
Allons-y.
Oh, bon, je sais pas, il va y avoir la Coupole, chez Georges, à peu près tous les restaurants du groupe Bûcher, Chartier,
au
Lyonnais, Benoît, au Lyonnais.
C'est le Grand Des Fours, bien sûr. Alors, il y a tout cela. Bien sûr, avec de très belles photos. Il y a aussi d'autres monuments de la restauration. Bien sûr, il y a Allard, etc. Au petit fer à cheval, vous voyez des choses moins connues. Parce que ce n'est pas uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. Là, c'est vraiment plutôt le décor. Et donc, d'abord, on a de superbes photographies. Une petite histoire. Et c'est vraiment un petit livre touristique parce qu'on a aussi tout de suite la version bilingue anglais. Donc, on ne s'étale pas énormément sur l'histoire. Mais voilà, ça vous fait une petite piqûre de rappel.
Voilà, on va dire ça.
Pour vous dire, tiens, mais en fait, où sont ces restaurants d'antan? Voilà.
Parce que celui sur les boutiques, je le trouvais original parce que c'était vraiment l'un des seuls et qu'elles sont de plus en plus rares. En vérité, dans le paysage gastronomique parisien, même s'il y en a pas mal qui disparaissent, quoi qu'on a vu il y a deux semaines, certains restaurateurs essayaient de sauver ces vieilles peaux et ces belles gueules. Mais ce livre-là, on l'a un peu parfois vu. Ce qui est dommage, il est bien fait, il est bien référencé, mais c'est que Paris, c'est une histoire, vu de ses restaurants, c'est vraiment une petite histoire de l'art et de la décoration. Et ils auraient pu les travailler en manière d'histoire de l'art. Raconter quel restaurant évoque l'art nouille, l'art du 19e, l'art déco. Là, c'est un petit peu... On est entre le guide et le beau livre. C'est dommage parce que s'ils avaient suivi la date de création de ces restaurants... Et on s'apercevrait qu'à chaque fois que ces restaurants étaient créés, c'était des véritables papiers buvards de la création artistique de l'époque. Mais, comme vous dites, délicieuse piqûre de rappel. Et puis, parce qu'il parle de la palette, du petit Lutetia, du Select, du Vagenant, de la Fontaine de Mars, on va pas se plaindre.
Voilà, c'est un petit voyage gastronomie d'antan. Mais c'est vrai que c'est un petit peu un petit catalogue. D'ailleurs, c'est pas rendre alphabétique, et vous avez raison. Il mériterait encore mieux ces restaurants d'antan.
Ça pourrait être raisonné.
En tout cas, c'est chez Parigram, et
qu'on
c'est Barbara Camir et Christian.
C'est pas pour faire mon Drucker, mais quand même.
Aux photos. Allez, ça y est, on part, on fait nos valises, on voyage. C'est Good Luck d'ici et d'ailleurs.
Good Luck Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Bonjour Karine.
Et fondatrice du magazine en ligne et de la conciergerie MyMoonSpots.com, dont vous vous baladez à travers la France et le monde. Vous dénichez de belles adresses, vous sélectionnez pour nous. Et alors, vous nous avez beaucoup emmené en France ces derniers temps.
C'est
et là, vous vous êtes dit... Allez, je les emmène loin, très loin.
Ouais, c'est juste parce qu'en fait, je rentre du Brésil, donc j'ai eu envie de vous partager les belles adresses que j'ai trouvées. Alors, il y a du Rio, il y a une jolie maison dans une vallée qui s'appelle Catuçaba. On en parlera un peu plus tard. Là, je voulais vous emmener à Paraty. Je voulais lui faire découvrir, en fait, je voulais lui faire deviner, mais je l'ai dit Paraty, donc entre Sao Paulo et Rio. Alors, c'est vrai que les Brésiliens, il faut juste le dire, on est l'année des JO. Ils sont pas en très bon état. Ils ont eu le virus Zika. Ils ont le scandale Lula, c'était quand même la dernière personne en qui ils avaient confiance. Et puis, il y a cette fameuse crise économique. Donc, il y a quand même la perspective des JO. J'ose pas imaginer comment sera le pays en septembre, octobre, après les JO. Si vous pouvez y aller, là, il y a 11 heures d'avion en avril, mai, c'est la meilleure période pour aller sur la Costa Verde entre Rio et Sao Paulo. Et donc, dans ce joli petit village je l'ai cité.
C'est un village de Paraty.
C'est un village
à l'échelle du Brésil.
Paraty. C'est un petit village. Alors, le centre-ville historique, on peut en faire le tour en une heure. Alors c'est marrant parce qu'on a l'impression d'être un peu à New York parce que la ville a été organisée comme l'est la ville de New York par avec des rues qui sont complètement parallèles. Donc quand vous demandez le chemin, on vous dit deux blocs à gauche, un bloc à droite. Le tout en anglais si vous ne parlez pas portugais. On a une petite résonance new-yorkaise. C'est marrant. Voilà, donc
dans ce petit paradis, un petit paradis, ça, elle était facile à faire. Qu'est-ce qu'on y trouve? Notamment,
on y
vous êtes arrêté dans
alors,
une casa.
Dans une casa, voilà, la casa Turquesa. Ce que j'adore dans cette maison, c'est qu'elle a une vue plongeante sur le port et que du coup, elle vous renvoie 200 ans en arrière, au moment où je veux vraiment faire une petite une page historique. Mais Paratis, c'était quand même la ville la plus étourdissante et en effervescence il y a 200 ans. Pourquoi? Parce que c'est à Paratis qu'étaient embarquées et débarquées toutes les matières précieuses, les étoffes, les soies, les épices.
Les
pierres précieuses, et notamment l'or qui venait du Minas Gerais juste à côté et qui partait au Portugal. Et c'est comme ça que la ville s'est enrichie. Et on conserve, alors elle reste très empreinte de nostalgie, mais on conserve toute cette richesse qui est encore très prégnante. Ce que j'aime beaucoup, c'est que donc cette maison a été acheté par
la casa Turquesa,
qu'on appelle aussi Tété. Elle a une vue plongeante sur le port, mais ce qui est génial, c'est qu'on comprend en étant dans cette maison que tout transitait. Donc on sent encore les effluves, les essences, l'effervescence de l'époque. Voilà, donc c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté historique dans la maison. Elle a racheté cette maison il y a 13 ans, Teresa. Il n'y avait que 4 murs, donc elle a dû tout refaire. Voilà, c'est de subsister rien. Voilà.
Donc quelques petites chambres, c'est à la taille d'une maison d'hôte.
Hein. C'est un peu plus grand qu'une maison d'hôte. On a 9 suites, toutes différentes, designées par l'architecte Renato Tavolaro, un Brésilien qui a lui restauré 40 maisons au Brésil. Là encore, elle est là. Le sens du détail est très important. Donc des moustiquaires designés par des tisserands du sud de Bahia, des draps en coton égyptien, des œuvres d'artistes, une touche artistique importante avec des œuvres de Jacques Rey ou de l'anglaise Margaret Mee. Voilà, chaque détail a son importance et elle est là. On la voit pour ceux qui nous suivent sur les écrans. Elle est là et elle gère divinement bien son petit
boutique
hôtel.
Pourquoi ça s'appelle Casa Turquesa?
Casa Turquesa parce qu'en fait, elle parle très bien français aussi et elle a vécu en France pendant 13 ans et en fait, le turquoise lui rappelait la mer Méditerranée, la Tunisie, l'eau de la Méditerranée. Donc, elle appelait Turquesa et c'est pas forcément une couleur qui est très très développée là-bas et elle s'est rendue compte après que c'était justement la couleur qui était utilisée par les pêcheurs qui habitent au large de Paratis.
Et très rapidement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là-bas?
Qu'est-ce qu'on fait à Paratis? Alors vous vous baladez dans le centre, c'est vrai que c'est une ville, donc il y a des pavés d'époque, on est dans la ville, il n'y a pas de plage, il y a énormément de bateaux, vous allez dans le port, c'est truffé de bateaux, il y en a des centaines, toutes de couleurs différentes, donc vous partez soit à la pêche, soit à la découverte des îles et ça c'est fabuleux. Tout le côté wild se passe vraiment au large. Donc on voit ce vert lagon à bord des bateaux qui peuvent être vraiment rose bonbon pour les gamins, ou violet. Enfin, c'est assez extraordinaire.
Ils se défendent sous-marins, quand même.
Et donc, il y a des fonds sous-marins, vous pouvez plonger avec ou sans bouteille, il y a des poissons magnifiques, des tortues, et au côté pêche, c'est le poulpe, qui est très très réputé là-bas. Et donc je les ai vus, ils se mettent dans les passes en fait avec un petit fil de nylon, ils ont besoin de rien, ils restent 24 heures le jour, la nuit, en famille, et ils remontent
les poulpes, mais
un par
et vous voulez manger
un tous les 15 secondes. Ça n'arrête pas. Et ils
après,
ont des kilos et des kilos. Et après griller.
Petit filet d'agrumes, c'est
avec
bon.
Avec quelques herbes, voilà.
Eh bien, c'est parfait.
C'est délicieux. Je vous ai donné envie. Ouais. Casa Turquesa à Paratis.
Paradis, et tout ça sur mindmoonspots.com.
Comme quoi, on en entend parler, j'en avais entendu parler depuis longtemps, mais je peux vous dire que ça reste un bijou paradis.
Et c'est vrai, un vrai petit paradis. Merci beaucoup, Capucine Grabi. Allez, l'agenda.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Allez, très rapidement, à noter sur votre agenda deux ventes. La première, Emmanuel.
Alors, l'une de mes ventes fétiches, faut vous dépêcher, c'est aujourd'hui, dimanche, ça a lieu à 14h30, rond-point des Chisés, Champs-Élysées, Arcurial, la fameuse vente aéronautique. Et cette année, il rend hommage à la maison d'assaut aviation. Pourquoi? Parce que c'est le centenaire de d'assaut aviation. Et alors, il y a beaucoup de lots. Mais ce qu'il y a d'impressionnant, c'est qu'on s'aperçoit que, au-delà de la maison d'assaut, l'aviation a toujours inspiré les artistes et les artisans avec des pièces uniques. Alors, lot 230, El Kibilal, une maquette du Falcon. Mais surtout, Jean-Pierre Carpentier, lui, c'est un designer. Lot 167, une table bureau qui est travaillé à partir d'un moteur 12 cylindres développé par Dassault à la fin des années 40. Autre lot que j'adore, alors mon fétiche, lot 131, autre designer, François Rallet, qui a travaillé à un bar qui est travaillé à partir d'un réacteur.
Ah.
Et je peux vous dire, alors, la pièce mise à prix, 6 000, 9 000 euros.
Très bien.
Et ça va monter. Mais c'est vraiment des pièces uniques, quoi. Et c'est vrai que ce sont des... C'est superbe, ce moteur en table basse chez vous, je vous promets que c'est un petit goût de paradis, mais à l'envers.
C'est terrible. Donc Emmanuel Rubin propose la vente aéronautique. Donc voilà, on voit l'homme et
mais
tout.
Il y en a une
et...
par an.
Oui, non, non. Et Karine Verniol propose la vente Hermès Vintage.
Ah, j'aime beaucoup aussi.
Ah, vous aimez beaucoup quand même. Mais moi aussi, j'adore l'aéronautique. Bref, donc si vous n'avez pas eu le temps de courir à la vente aéronautique chez Arcurial, vous y retournez le 11 avril pour la vente Hermès Vintage. Bien sûr, il y a les sacs. Les sacs Kelly, etc. Un petit sac Birkin à 30-40 000 euros, mais voilà, parce qu'il est en crocodile indigo brillant. Bon, d'accord. Mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des bijoux, il y a des ceintures, il y a des bracelets manchettes, il y a un échiquier. Et ça, c'est le genre de choses que j'adore, le genre d'objet, de pièces que j'adore chez Hermès. Un petit échiquier mis en vente à 120, ah non, 4000 ou 5000 euros.
Ah bon, on a l'air fin tous les deux.
Et des carrés de soie. Il y a de superbes carrés de soie, même des carrés de soie des années 40. Vous imaginez, des années 45, par exemple, et l'un d'entre eux, les armes de Paris ou à la gloire de la Légion. C'est marrant,
oh,
comme thème.
Ça me plaît, ça.
C'est génial comme thème. Et des mises à prix, là, pour le coup, de 150-200 euros. Donc, des choses tout à fait abordables. Et vraiment, pour découvrir aussi cet aspect-là d'Hermès, pas mal d'objets en cuir, de bagages, etc.
Vous allez renchérir.
C'est
vous allez emporter.
Avril chez
on va se ruiner. Hein. Vous emportez l'échiquier Hermès.
Cher,
je remporte la table basse sur moteur. Et à nous deux, on a une pièce
et
maîtresse.
On refait le studio de Goudelieu.
Pour les années, alors.
Merci beaucoup, Emmanuel. On regarde d'abord nos comptes en banque. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pour d'autres Goudelieu. Restez encore un petit peu avec nous. C'est le best-of de la semaine, tout de suite sur BFM Business.